simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Colis Garrigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Avec la mobilisation historique de Sainte-Soline contre les méga-bassines, c'est à l'ensemble du pays et bien au-delà que se sont vus révéler les enjeux de l'accaparement de l'eau par une minorité d'irrigants en pleine sécheresse systémique. Face à la détermination et au nombre chaque fois croissant de manifestants et manifestantes, le gouvernement n'a pour l'instant pour seule réponse que d'interdire, réprimer et annoncer à l'arraché 30 nouvelles mégabassines dans la Vienne. Et la question des terres aussi est une question prégnante. Les 25 et 26 mars 2023 se sont donc tenues les mobilisations contre le projet de mégabassines dans les Deux-Sèvres. La ville de Melle a accueilli cette initiative et cet événement. Des manifestations ont eu lieu contre ce projet de mégabassine à Sainte-Soline et en même temps se tenaient à des tables rondes, notamment le vendredi 24. Et on va revenir dans cette émission sur celle du dimanche 26 mars. Son titre était « Ravages agro-industriels et résistance paysanne ». Et donc c'est cette table ronde que nous proposons dans l'émission de ce jour. Bonne écoute.
On a choisi avec le collectif Bassinon Merci d'organiser cette table ronde, conférence autour des ravages agro-industriels et des résistances paysannes parce que en fait, les bassines sont pour nous le prolongement assez logique de l'ensemble de ces ravages et particulièrement entre autres au niveau du cycle de l'eau. Du remembrement, donc de l'agglomération des parcelles, la destruction des haies qui a eu lieu depuis les années 70 et qui continue en fait toujours actuellement. J'aurais aimé vous montrer, on a un petit souci technique, l'évolution de la taille des parcelles depuis les années 55-60 dans le bassin de la Vienne, parce qu'ici on a mobilisé contre le projet de la COP de l'eau de 16 mégabassines dans les Deux-Sèvres. Mais il y a en fait des projets de mégabassines qui se développent un petit peu partout. Et dans le bassin d'à côté, dans le bassin du Clain, dans la Vienne, on a un projet de 30 mégabassines. Et notamment 6 bassines sur un tout petit bassin versant qui a été entièrement remembré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus que des très grandes parcelles qui sont à nu l'hiver, qui n'ont plus de haies. Les seuls arbres qu'on trouve encore dans le bassin versant, c'est uniquement des peupliers parce qu'ils sont exploités. Alors que ce sont des arbres qui consomment énormément d'eau. Et en fait, ce petit bassin versant, palu, ça vient du latin palus, qui veut dire marais. Et c'était un petit bassin versant plein de zones humides, plein de petites rivières avec plein de petits poissons. Et puis, aujourd'hui, en fait, on n'a plus qu'une rivière, vraiment la palu, qui passe dedans. Beaucoup de ces cours d'eau qui formaient sa source ont été asséchés. Et cet été, la palu a été entièrement asséchée. Et cet hiver, on a à peu près toute la moitié aval qui est restée à sec entièrement durant tout l'hiver. Et en fait, ils ont donc complètement retiré le couvert végétal. On est sur des roches qui retiennent énormément d'eau, sur ce qu'on appelle des aquifères, qui ont une très bonne réputation. Et politiquement, ils se sont dit « Ah bah c'est bon, on peut faire des forages partout, on peut combler entièrement des petits cours d'eau ». On peut rectifier, c'est-à-dire aligner de manière linéaire certains cours d'eau au bulldozer. Et puis, de toute façon, on aura toujours de l'eau puisqu'on a ces aquifères énormes. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec un bassin versant qui est quasi désertifié et qui a perdu toutes ses zones humides, qui a un sol qui a été très très sec cet hiver. Et donc justement, on a eu une très mauvaise recharge des nappes dans ce bassin versant cet hiver, puisque quand les pluies sont arrivées, le sol était tellement sec que ça a principalement ruisselé. Enfin, on a un bassin donc, qui est très impacté par une agriculture industrielle. Et comme désormais ils sont en manque d'eau par rapport à la surirrigation qu'on fait dans ce bassin versant, la suite logique en fait de toute cette politique d'aménagement, c'est de mettre des mégabassines. Et donc pour parler de ce problème des ravages agro-industriels, nous avons quatre intervenants aujourd'hui. Je vais tout de suite leur laisser la parole et les laisser se présenter. Et après leurs interventions, on aura un moment d'échange avec la salle.
On a mis un petit peu de temps à se décider sur le sujet de la conférence aujourd'hui avec Anne. Et finalement, on a choisi de parler de l'histoire du roman Bronan. Son histoire, en fait, est encore assez peu connue, assez peu étudiée. Il n'y a pas eu d'ouvrage d'histoire critique ou de sociologie sur le roman Bronan, sur les résistances qu'il a occasionnées, les douleurs aussi, sur les perdants du roman Bronan. Le roman Bronan, c'est une, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une étape indispensable à l'installation de l'agriculture industrielle en France. Ça démarre dans les années pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a réfléchi avec Jimmy et Léandre, que je vais présenter, au fait qu'on pourrait articuler nos travaux en cours pour faire une conférence tous les trois, parce que nos travaux en cours, donc, explore chacun à leur manière cette histoire. Léandre Mandard est doctorant au Centre d'Histoire de Sciences Po et il travaille sur l'histoire du roman Bronan en Bretagne. Moi, je suis journaliste et je prépare une bande dessinée avec le dessinateur Pierre Van Hove sur l'histoire du roman Bronan en France. Et Jimmy Grimaud est doctorant en géographie à la Fac de Nancy et il prépare, il est en train de rédiger une thèse qui va se tenir en septembre ou à l'automne sur un sujet beaucoup plus actuel, mais vous verrez qu'il résonne énormément avec nos travaux de recherche sur le roman Bronan. Et il fait une thèse sur la transition électrique aujourd'hui en France, voilà, qui se passe principalement dans, enfin, la transition énergétique est principalement électrique, et son travail porte essentiellement sur l'éolien et comment cette transition s'opère dans les zones rurales. Et enfin, Martin Diraison, de Paysan Nature, ouvrira le débat en parlant des propositions faites par son association pour l'installation de nouveaux paysans favorables à la vie sauvage. Voilà. Je vais passer la parole à Léandre, qui va un peu vous raconter les origines de la loi sur le roman Bronan en France.
Présentation d'Inès Leroux.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, pour commencer, je peux donner quelques éléments de définition du roman Bronan et situer un peu le contexte dans lequel a été mise en place cette politique. Alors, le remembrement rural, en tant que tel, c'est une politique d'aménagement foncier rural, donc, qui consiste à organiser un échange généralisé des parcelles à l'échelle d'une commune, de façon à grouper ces parcelles autour des exploitations et à faire surtout des grandes parcelles qui soient adaptées donc, à la motorisation et in fine à l'agriculture intensive. En fait, le cadre du remembrement tel qu'il s'est déployé de façon massive en France entre les années 50 et 80, en gros, c'est la loi du 9 mars 1941. Alors, il y avait d'autres lois qui existaient déjà, qui avaient été promulguées en 1918 mais qui avait concerné surtout les territoires ravagés par la Première Guerre mondiale, où le parcellaire avait été complètement détruit, et donc il a été remembré dans ce contexte-là. Mais c'est à partir de de 1941, donc dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy, où il y a une loi sur le remembrement qui a été mise en place et qui, elle, est, a une vocation purement productive et agricole, en fait. Et cette loi, elle a été donc préparée par un certain nombre d'ingénieurs du génie rural, de technocrates qui avaient ces projets-là dans leur carton déjà depuis, depuis un moment, dans l'entre-deux-guerres. Et ces technocrates, en fait, ont vu dans le régime de Vichy une fenêtre d'opportunité, finalement, pour faire advenir leur projet modernisateur. Parce qu'on a souvent une vision traditionnaliste de Vichy, qui correspond aussi à la propagande qui avait été faite à l'époque, hein, la thématique du retour à la terre, voilà, d'une France provincialiste, et travail, famille, patrie, à tout l'imaginaire qu'on associe au maréchal Pétain et tout ça. Mais en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre de lois de modernisation agricole qui tendent, qui nous montrent que finalement, le régime de Vichy a été un moment d'accélération de la modernisation agricole en France, et un moment clé. C'est ce que montrent notamment les travaux de l'historien Christophe Bonneuil qui a étudié ces questions-là. Et il y a aussi dans ces années un contexte d'injonction allemande à la modernisation de l'agriculture, parce que la France était dans le projet, selon les projets allemands, était censée devenir le grenier de l'Europe allemande, en fait. Et l'Allemagne avait déjà été largement remembrée au cours de l'entre-deux-guerres, y compris sous le Troisième Reich. Et par ailleurs, la science agronomique de l'époque était rayonnait sur un plan international. Et bon, donc, tout ce contexte fait qu'on a cette loi donc, du 9 mars 1941 qui va poser le cadre du remembrement pour les décennies à venir, puisqu'elle va être conservée en 1945, cette loi. Bien qu'elle elle contienne en elle-même structurellement des éléments assez autoritaires, en fait, comme on va pouvoir le développer ensuite. Et cette loi, elle s'applique premièrement dans les années 50, eh bien, dans les grandes régions de plaines céréalières, d'open field autour du bassin parisien, parce que c'est le plus facile, ce sont les régions les plus faciles à remembrer, évidemment, parce qu'il n'y a pas de haies, hein, il n'y a pas de ce qu'on appelait à l'époque d'obstacles à l'utilisation rationnelle du sol. Cette politique de remembrement est largement déployée dans ces territoires à ce moment-là. Et finalement, ce n'est que plus tard, à partir des années 60, surtout, que le remembrement va se diriger vers les régions de bocage. Alors, je peux dire deux mots très rapides sur le bocage, mais le bocage, bon, c'est un paysage agraire et une structure agraire spécifique où on a un habitat dispersé avec plein de fermes un peu partout et un paysage marqué par des petites parcelles entourées de talus, de haies, avec plein de fossés, des chemins creux, souvent des champs avec plein d'arbres fruitiers, des pommiers dedans. Et donc tout ça a été vu après la Seconde Guerre mondiale comme vraiment des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol et comme des obstacles au déploiement de l'agriculture intensive, productiviste, industrielle, dont on voit les résultats aujourd'hui. Et donc on va vous présenter rapidement des exemples un petit peu de remembrement. On va développer un peu comment ça se passe concrètement sur le terrain à partir d'exemples bretons qu'on a bien étudiés avec Inès.
En effet, moi j'ai deux terrains d'enquête bretons la prochaine BD que je vais faire paraître sur le remembrement. Et donc on a fait les terrains ensemble avec Léandre. Mais donc en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, ce qu'on a découvert notamment grâce au travail de Christophe Bonneuil et puis aux recherches de Léandre dans les archives départementales, c'est à quel point, alors qu'on pensait que le remembrement... Voilà, d'ailleurs, Anne, toi, tu as dit que le remembrement, c'était une étape des années 70, etc. Dans l'imaginaire collectif, on pense que le remembrement vient après-guerre, avec le plan Marshall, avec les accords qui sont passés avec les États-Unis. Et en fait, on s'aperçoit dans les archives que c'est vraiment une loi vichyste. Donc c'est une découverte assez intéressante qui va cependant rejoindre finalement la politique d'après-guerre et perdurer, une loi qui va jamais être abrogée, enfin qui va être abrogée bien plus tard. Et Léon, vous parlez du bocage, je ne sais pas si vous avez vu hier, là où on était à Vanzef, on est vraiment typiquement dans un paysage de bocage, il y a des talus, donc les talus c'est des espèces de... Enfin, on creuse des fossés en fait pour faire s'écouler les eaux de pluie, et la terre qui a été enlevée forme un talus, donc une espèce de butte à côté du fossé, et parfois même pour que ces buttes soient plus solides, les talus sont empierrés, et hier à Vanzef, il y avait des magnifiques talus empierrés, il y avait des magnifiques vergers dans les jardins des gens. Enfin, c'est une ancienne zone de bocage. Tout l'ouest de la France était quasiment embocagé, contrairement au quart nord-est, qui était une zone d'open field depuis déjà le 18e siècle. On a étudié un cas assez intéressant dans le 44, une commune qui s'appelle Fégréac, qui va être, dont la demande de remembrement va se faire dès 1944, parce que le maire était... très modernisateur, très pétainiste, et le remembrement va se faire dès les années 50 en zone de bocage, donc ça va être un des premiers en zone bocagère, et ça va servir un peu de vitrine, de test pour amorcer le remembrement dans l'ouest de la France. À l'époque, le bocage, donc ces haies, sont plantées principalement de chênes. On coupe les branches tous les 9 ans pour refaire du bois de chauffage. Le chêne pédonculé a une particularité, c'est que les branches peuvent repousser, toutes les branches coupées. Et puis, dans le bocage, il y a aussi beaucoup de... Enfin, dans les haies, il y a aussi beaucoup de saules dont les branches servent pour la vannerie. Les branches de châtaigniers ou les jeunes châtaigniers peuvent servir à faire des manches d'outils. Il y a aussi dans les haies pas mal d'arbres fruitiers, les châtaigniers, les pommiers, etc., les églantiers qui servent à la production de fruits. Et puis ce bocage sert historiquement aussi d'abri contre le vent, contre la pluie, pour les bêtes. Et il a une fonction contre l'érosion, c'est-à-dire qu'il retient la terre lorsqu'il y a des grandes pluies. Et il sert bien sûr de bois d'œuvre, les arbres de haute futaie servent à la construction, à la charpente, etc. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a ces usages du bocage perdurent depuis plusieurs siècles. Et à Fégréac, cette commune qu'on a étudiée, on voit aussi qu'il y a énormément de pommiers. Et en fait, comme le disait Léandre, ces haies et aussi ces pommiers vont être considérés comme des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol, à la mécanisation, et ils vont être arrachés pour qu'on puisse cultiver les parcelles avec des engins motorisés. Et ça, ça va poser un vrai problème aux habitants de Fégréac. Via la loi de 1941, en fait, le remembrement, il est décidé par le maire, qui est un riche propriétaire terrien, notable, châtelain de la commune, et quelques gros agriculteurs. Mais donc, on peut imposer le remembrement à une commune sans avoir l'accord de la majorité. Et les habitants vont petit à petit découvrir la réalité d'un remembrement, à quel point ça va complètement bouleverser en fait la sociologie de la commune, leur manière de fonctionner, leur manière aussi, leur économie, et vont résister massivement au remembrement, c'est-à-dire que sur les 350 propriétaires de la commune, seuls 12 vont accepter les plans de remembrement tels qu'ils sont prévus. Mais ce qui se passe, ce qui pose problème vraiment, c'est que ces pommiers, déjà les gens boivent beaucoup de cidre, donc c'est essentiellement des pommiers à cidre. Les gens font leur cidre eux-mêmes, et puis les surplus sont envoyés par péniche ou par charrette à cheval ou à bœuf dans les communes alentours, donc Saint-Nazaire, Le Croisic, Rennes, Redon, etc. Et même à Paris parfois, les pommes, il y a aussi des pommiers à couteau. Et toute cette activité autour de la pomme représente le quart à peu près des revenus des habitants. Et il faut voir qu'à cette époque aussi, on voit une grande diversité de personnes qui ont des vergers et qui ont des activités agricoles sans que ça soit leur activité à temps plein. Donc y a des personnes qui tiennent une épicerie et puis à la fois qui ont un verger et ça représente un complément de revenu pour elles en plus d'une activité d'autosubsistance. Et le remembrement va vraiment venir bouleverser ça et faire en sorte que finalement la terre va être réservée aux personnes pour qui l'agriculture c'est un métier à temps plein. Et tous les autres vont finalement perdre leur terre, on va leur donner des terres un peu moins bonnes. parce que l'idée, c'est de regrouper les terres pour avoir des terres les plus grandes possibles. Donc, on va changer complètement le parcellaire, quoi. Et on va réattribuer aux gens des terres qui étaient complètement différentes de celles qu'ils avaient l'habitude de cultiver depuis des années, et souvent sans pommier. Donc, dans le registre des réclamations qui ont été faites par les habitants en 1952, on a trouvé quelques exemples qui, à nos yeux, montrent un peu le choc des cultures qu'il va y avoir entre les habitants des zones rurales à cette époque et l'institution, et puis la violence de l'administration. Par exemple, il y a M. Jiquel, Pierre Jiquel, qui écrit à l'administration qu'il n'accepte pas les parcelles que vont lui donner le plan de remembrement. Il dit « Je demande à laisser les champs où ils sont, car le lot que vous me mettez n'a aucun pommier. » La commission de remembrement lui répond.
La commission lui répond « Ne précise pas le nombre de pommiers perdus, si tant est qu'il en perd. »
Plusieurs personnes disent qu'elles n'ont pas été satisfaites des différents lots, ne sommes pas satisfaits des différents lots qui nous ont été attribués par le projet de remembrement. Nous tenons à réserver notre terrain où il se trouve, vu sa qualité et sa plantation en arbres fruitiers, pour le plus grand intérêt de notre exploitation.
La réclamation, trop vague, est repoussée.
Ernest Dupé dit « Je désire garder mon terrain tel qu'il est. Je suis trop âgé pour aller reconnaître les nouvelles parcelles qui me sont attribuées. »
La réclamation, insuffisamment motivée, est rejetée.
Une veuve, Madame Moureau, dit « Je garde tout mon terrain et surtout mon champ du noyer. Je le veux. Et le champ jardin à Marie Bocquel, elle le réserve auprès de sa maison. Et le pré de la fontaine à Ernestine. On réserve tous nos biens. »
Le champ du noyer qu'elle réclame est trop éloigné de ses bâtiments pour lui être conservé. N'avait pas à faire de réclamation pour ses voisins. Rejeté.
Maurice Vallée dit « Je veux tout garder, pré, champ, pommier. »
La réclamation n'est ni précisée ni motivée. Ayant un caractère nettement marqué d'opposition systématique, elle est rejetée par la commission qui constate, après examen de ses lots, que l'intéressé n'a été nullement lésé par le remembrement.
Ça, c'était la décision 53. Et puis ensuite, il y a trois personnes qui disent « Monsieur Jean Cogrel, je renonce au remembrement, vu l'injustice faite partout, je veux mes propriétés telles qu'elles sont. »
Voir décision prise au numéro 53, c'est-à-dire réclamation ni précisée ni motivée, caractère nettement marqué d'opposition.
Puis pareil pour Amélie Serrault, « Je refuse le remembrement, j'ai 80 ans, je tiens à garder mes parcelles pour m'aider à vivre. » Voir décision prise au numéro 53. Et enfin, Jean Moreau, je renonce totalement au remembrement. Je réserve mes biens ainsi que ceux de ma femme qui reviennent de ses parents, car on a pu constater que les lots qui ont été faits à venir jusqu'à présent sont faits avec injustice. Et pareil, on considère que c'est l'opposition systématique au remembrement et c'est donc rejeté. On voit aussi à cette époque que dans les zones rurales, le patois est beaucoup parlé et qu'il y aura une difficulté pour toutes ces personnes à bien comprendre les procédures de remembrement et aussi à se défendre ensuite, à faire des réclamations et des recours en justice en utilisant un vocabulaire pour qualifier leur terre, en utilisant une langue pour qualifier leur terre, le français, qui en fait ne contient pas les mots que eux peuvent et les nuances qu'eux peuvent utiliser pour parler de leur parcelle. Et puis en fait... dans les années 60, le remembrement est accéléré dans les zones de bocage. À la fin des années 50, le général de Gaulle demande à des économistes un rapport sur les freins à l'expansion industrielle et commerciale en France. Et ce rapport, qui s'appelle le rapport Jacques Rueff-Armand, va conclure qu'en fait, c'est l'agriculture, notamment dans l'ouest de la France, qui est un frein à cette expansion, que l'agriculture n'est pas assez consommatrice de produits industriels, que l'agriculture ne produit pas assez, enfin en produisant beaucoup de produits finis finalement, du beurre, etc., elle ne produit pas assez de la matière industrielle, de la matière première qui pourrait être transformée par l'industrie, que en fait il y a trop de paysans dans les campagnes, alors que ils pourraient, enfin tout ça c'est un réservoir possible de main d'œuvre pour l'industrie et qu'il faudrait réduire le nombre de paysans pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre industrielle. Et puis aussi que les produits alimentaires sont beaucoup trop chers et qu'il faudrait réussir à faire baisser le prix pour que, en gros, les consommateurs puissent allouer une partie de leur budget à acheter des produits manufacturés, des produits industriels. En fait, toute une série de mesures vont être mises en place pour diminuer la population agricole, pour augmenter la taille des fermes. Et notamment, il y aura une mesure incitative qui va être très très efficace, c'est l'IVD, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'indemnité viagère de départ. En gros, si un paysan accepte de partir à la retraite, on va lui donner 1200 francs en plus de sa retraite. Parce que parfois, des paysans, pour différentes raisons économiques, peuvent travailler au-delà de la retraite. Et s'il accepte de céder sa ferme, non pas à son enfant ou à une tierce personne, mais à l'agrandissement d'une autre ferme, il va recevoir 2500 francs par mois en plus de sa retraite. Donc ça va être assez efficace et c'est des millions en fait d'agriculteurs qui vont partir en retraite. Et puis il y a d'autres politiques aussi qui vont permettre à des plus jeunes de pas reprendre des fermes et puis d'aller travailler dans les usines.
Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour. Le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, par et peine, et on fin de camille, et on reste d'itoc. Et un poco saisie par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, par une pierre, un chemin qui chemine, un reste
de la table ronde enregistrée à Mel dans les Deux-Sèvres le dimanche 26 mars 2023, qui avait pour titre Ravage agro-industriel et résistance paysanne.
Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans la présentation, c'est que mon collègue Jimmy, à ma gauche, qui était notre intervenant principal aujourd'hui, parce qu'on trouvait que son travail de thèse résonne énormément avec ce qui se passe aujourd'hui autour de Bassine, est malade et a perdu la voix, et on ne sait pas comment on va faire pour
Donc je me mène une recherche actuellement sur la transition énergétique, sur le développement des énergies renouvelables, et en particulier le développement de l'éolien. Dans les campagnes du Grand Est. Et donc c'est des campagnes qui sont des campagnes populaires. Je ne sais pas si vous avez avez entendu parler de l'ouvrage de Benoît Coquart sur les campagnes en déclin. Mais c'est un peu les mêmes espaces que j'étudie. Et en fait, dans ces campagnes-là, l'éolien se développe de manière très très concentrée. Il y a des espaces dans lesquels on peut trouver des centaines, voire des milliers d'éoliennes dans un périmètre très très restreint, de l'ordre de quelques dizaines ou centaines de kilomètres carrés, ce qui pose tout un tas de questions autour des effets en fait de cette géographie de l'éolien et notamment des effets écologiques, des effets sociaux. Et j'ai étudié en particulier, pour faire le lien avec le remembrement agricole, j'ai étudié la région de la Champagne crayeuse qui a vraiment, c'est une histoire vraiment exceptionnelle puisque ce ne sont pas des haies qui ont été des talus qui ont été arrachés, rasés, mais c'est carrément des forêts et sur des surfaces absolument colossales. On parle de plusieurs centaines de milliers d'hectares. Pour faire place à la modernisation agricole et quelque part au productivisme agricole. Cette région, la Champagne crayeuse, est aujourd'hui une des plus productives d'Europe. On parle souvent de la Beauce quand on veut nommer finalement des espaces complètement transformés et de très très forte productivité agricole, mais en fait la Champagne crayeuse est en passe de la dépasser ou l'a déjà dépassée. Et donc ce que je voulais montrer aujourd'hui, ce que j'essaie de montrer dans mon travail, c'est qu'il y a un lien en fait entre ces deux périodes, entre ces deux phénomènes, dans le sens où d'une part bien sûr la destruction en fait des forêts et puis aujourd'hui les activités intensives font qu'il y a, et en fait il y a des écosystèmes qui sont assez pauvres, très 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 pauvres, et ce qui justifie dans les enquêtes publiques dans les études d'impact que en fait ici il n'y a rien, donc on peut massifier le développement éolien. Et la deuxième raison qui me semble encore plus intéressante, c'est que cette modernisation agricole, elle a fait émerger, on peut dire, une classe d'agriculteurs embourgeoisés, d'agriculteurs enrichis, dans ces campagnes-là. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à homogénéiser le groupe des agriculteurs, alors qu'il est vraiment très divers. Et dans ces territoires ruraux agricoles, les agriculteurs ont des revenus au niveau de ceux des cadres. Ont un patrimoine immobilier au niveau de ceux des professions libérales, et on peut même voir dans les familles des niveaux de diplôme qu'on pourrait pas suspecter de prime abord, avec des gens qui sont docteurs en agronomie docteurs en agronomie ou plus couramment diplômés du supérieur, ce qui tranche un peu avec les représentations qu'on peut avoir des agriculteurs les représentations communes. Et en fait, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que ces agriculteurs, du coup, ils ont une forme de contrôle en fait sur les instances politiques locales, et c'est ce qui leur permet de localiser les éoliennes sur leurs parcelles et de mener à bien les projets avec les développeurs, tout en réprimant finalement les contestations qui, dans ces campagnes-là, peuvent venir de fractions plus pauvres des villages. La captation en fait des énergies renouvelables par ces agriculteurs va leur permettre de capter en fait les revenus. C'est le cas dans l'éolien, c'est aussi le cas dans la méthanisation ou dans le photovoltaïque. Donc les revenus de ces énergies renouvelables, et qui vont finalement leur permettre de garder leur pouvoir et de ne jamais questionner en fait le modèle agricole, qui va leur permettre de prolonger cette logique de la modernisation en leur permettant de racheter toujours plus d'hectares et en se mécanisant toujours plus à outrance. Et donc on voit bien que ces énergies renouvelables qui peuvent être appropriées par plein d'acteurs différents en France, et je pense que c'est aussi le cas dans d'autres pays, est majoritairement capté par des agriculteurs qui n'ont pas véritablement l'intention de tendre vers une société qui est plus écologique. Et donc moi, voilà, ma recherche, elle est très qualitative. J'ai fait des centaines d'entretiens avec des habitants de ces espaces ruraux-là. J'ai rencontré 30 à 40 agriculteurs et voilà, c'est quelque chose qui est assez solide, en tout cas, comme analyse. Tout ça ne se fait pas sans résistance. Et du coup, il y a aussi des résistances d'autres types d'agriculteurs. Donc il y a bien sûr des agriculteurs paysans, des agriculteurs bio qui essaient... eux, de faire revenir de la biodiversité dans ces régions, et du coup qui refusent parfois les éoliennes sur leur parcelle, et voire même parfois qui s'opposent à ces projets-là. Alors ils sont dans une position ambivalente parce qu'ils ne sont pas forcément contre les énergies renouvelables, mais c'est des projets qui sont aussi très opaques, qui se font contre les populations, et donc du coup ils prennent le parti de la majorité. Il y a aussi des agriculteurs, comme je disais, étant donné que c'est évident pour tout le monde dans ces espaces-là que ces nouveaux revenus vont permettre aux agriculteurs de manger les autres. Il y a des agriculteurs paupérisés, on va dire, qui mènent aussi le combat à leur manière. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec les éoliennes, c'est que ça montre la diversité justement du groupe des agriculteurs. Et entre des céréaliers qui ont une activité limitée dans le temps et surtout dans des tracteurs aux cabines insonorisées. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des éleveurs et des maraîchers qui, eux, se disent « Mais moi, passer toute mon année sous les éoliennes, sous des centaines d'éoliennes, c'est pas possible. » Et donc, c'est aussi intéressant pour toutes les nuisances sonores, notamment lumineuse, paysagère, qui peut y avoir. L'emprise au sol, bien sûr. Du coup, la deuxième chose, mais je vais essayer de faire vite, sur les espaces ruraux, et surtout en particulier sur ces espaces ruraux-là, c'est que on a souvent tendance à oublier que plus on s'éloigne des villes, plus on a une part des ouvriers, des employés, des classes populaires qui est importante, on parle là-dessus. Et donc ce qui donne, à mon avis, une dimension sociale finalement à ces oppositions qui sont, à cette question-là, qui n'est pas qu'une question, à mon avis, d'écologie, mais qui est une question de justice et d'injustice par rapport à la concentration des éoliennes dans ces territoires ruraux. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en fait, on a du mal à comprendre les oppositions aux éoliennes. C'est parce qu'elles sont menées par... potentiellement par ces personnes. Et moi, je relis vachement, en fait, la question des gilets jaunes et des anti-éoliens, pour lesquels, en fait, on a des représentations assez négatives, du moins dans un premier temps pour les gilets jaunes, parce qu'après, ils ont eu la possibilité, finalement, d'expliquer leur doléance très largement. Et donc, du coup, on a pu prendre conscience, en fait, de l'ampleur de la dimension sociale, en fait, de ce soulèvement. Et je pense que c'est un peu pareil du coup pour les anti-éoliens. Enfin voilà, j'arrive un peu sur la fin du coup, c'est cette question-là de changer en fait nos regards peut-être sur les espaces ruraux et pour peut-être toutes les luttes paysannes, écologistes ou territoriales finalement, arriver à mieux finalement... s'allier avec les classes populaires qui sont parfois deux tiers des personnes dans ces villages-là, essayer en fait de lutter avec elles, et d'autant plus que, et d'être à l'écoute, d'avoir peut-être une approche empathique et compréhensive des motifs pour lesquels elles se mobilisent, qui nous paraissent parfois pas forcément très légitimes, notamment sur l'immobilier, sur les questions sanitaires, sur ce genre de choses. Et en fait, moi, par exemple, j'avais des ouvriers qui me parlaient de l'éolien, des nuisances sanitaires, des bouches. Au début, je ne pensais pas du tout parler de ça dans ma thèse. Je trouvais que c'était pas forcément très, très intéressant. Et en fait, ça l'était pour eux, dans le sens où toutes les nuisances, une partie des nuisances en fait, qu'ils avaient dans les usines, ils les retrouvaient dans leur espace domestique. Et c'est une des raisons pour lesquelles en fait, ils se mobilisaient contre ces projets. Et je trouvais ça, du coup, assez intéressant. Et de la même manière, toutes les raisons autour de l'immobilier, on pourrait se dire que c'est des raisons qui ne sont pas très politiques. Et en fait, je trouve que quand on écoute ces personnes-là, et qu'elles nous expliquent en fait pourquoi elles sont venues emménager dans ces territoires-là, bah, c'est lié en fait à des prix de l'immobilier, etc. Et ça a des coûts importants en fait dans leur vie. Et donc du coup on comprend beaucoup mieux en fait quand on passe un peu de temps avec elles pourquoi se mobilisent sur cette question-là. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire du coup. Je sais pas si ça a été très clair.
Je voulais juste compléter sur je sais pas si un point particulier était clair, c'est Jimmy m'avait expliqué que par exemple la transition énergétique qui se passe principalement dans les zones rurales, en fait c'est comme un deuxième remembrement, ça resélectionne un certain type d'agriculteurs, toujours les plus gros, parce qu'en fait une éolienne c'est une emprise au sol de plusieurs, enfin assez importante, hein, de plusieurs dizaines de mètres carrés qui sont bétonnés. Et puis, en fait, c'est nécessaire d'avoir un vide de biodiversité autour d'une éolienne, puisqu'elle va sinon tuer beaucoup d'oiseaux, de chauves-souris, etc. Et ça fait beaucoup de bruit. Et donc, seuls les agriculteurs qui ont beaucoup de terres, qui peuvent travailler dans des cabines de tracteurs insonorisés, qui ont des bâtiments loin des parcs éoliens, accepter ces parcs éoliens et en tirer les revenus, quoi. La petite paysannerie ne peut pas. Et donc, c'est ce que tu expliquais après, c'est une nouvelle manière, en fait, indirecte, de resélectionner une certaine agriculture. Et aussi, en fait, Léandre, il avait préparé, mais on pourra en parler dans l'échange qui suivra. Ce qui nous intéresse aussi dans le remembrement, c'est que dans l'histoire du remembrement qu'on vous a raconté avant, c'est que beaucoup d'agriculteurs ont lutté contre les remembrements. Nous, on va dans les archives départementales, on trouve pour chaque commune des centaines de recours en justice d'agriculteurs en désaccord avec le remembrement. Et c'est une histoire récente et pourtant complètement oubliée, quoi. Aujourd'hui, les agriculteurs ont tendance à défendre ces opérations qui ont eu lieu. Et c'est comme s'il y avait une amnésie sur toutes les résistances qui avaient été déployées. Et le répertoire d'action, le répertoire de lutte, il est énorme. Il y a des convergences de lutte en fait, contre le remembrement qui ont été construits dans les campagnes. Et il y a un vrai héritage à tirer de ça. Mais on pourra peut-être en parler lors de la discussion. Et je vais passer la parole à Martin.
Donc moi, si je comprends bien, mon rôle, c'est qu'après ce portrait sur les ravages passés et actuels, il faut que j'évite de vous laisser sortir de la salle avec le moral dans les bottes. Moi, je suis maraîcher dans le Morbihan. Et avant ça, mon boulot, c'était naturaliste. Donc je me définis toujours comme naturaliste, mais maintenant plus par passion, bénévolat, etc. Et en fait, je me suis installé paysan pour des questions de protection de la nature. C'était un peu mes valeurs de base et puis mon ambition de base. Et il se trouve que je ne suis pas du tout un cas isolé et que ça a pris la forme d'une association nationale maintenant qui s'appelle Paysans de Nature, qui a ses origines en Vendée, dans le Marais breton. Il y a d'autres copains, d'autres réseaux amis, comme Ferme Paysanne et Sauvage, par exemple, dans la Drôme, qui a été pas mal médiatisé autour de la ferme du Grand Laval, qui font des choses similaires. Et donc, Paysans de Nature, aujourd'hui, c'est un réseau de fermes qui est favorable à la vie sauvage, et dont l'ambition, elle est vraiment, c'est une ambition de reprise de terre, donc c'est reprendre des terres à l'agro-industrie, par un outil, en fait, qu'on voit comme un outil, qui est l'installation paysanne. Et ça, c'est porté par une implication citoyenne locale des habitants et des naturalistes. Donc un petit bout d'histoire, puisque en fait, un des cofondateurs, Fred Signoret et Ludivine Cosson, donc leur ferme, c'est dans le Marais breton, en Vendée. Donc Fred, lui, était un salarié de la LPO Vendée, dont une de ses missions était d'essayer de convaincre les agriculteurs du Marais breton de contractualiser des MAEC, ces mesures agro-environnementales climatiques à l'époque. C'est un peu la caution verte de la PAC. Et en fait, ça marche moyen, il y a un peu de pognon quand même, mine de rien, mais les résultats en termes de biodiversité sont pas terribles. Et donc, à un moment donné, il a fait ce choix qu'on est plusieurs à faire maintenant. Eh bien, je vais m'installer paysan moi-même pour faire mes choix moi-même de paysan naturaliste et essayer de convaincre, du coup, essayer de montrer, par exemple, que c'est possible de faire une production agricole et favorable à la vie sauvage. Favorable à la vie sauvage, pardon. Donc ça a fonctionné, ça a vraiment extrêmement bien fonctionné. Sa ferme, c'est une réussite économique en termes de biodiversité. Ça a fait rougir à peu près n'importe quelle réserve naturelle de France. Ça marche, quoi. Et par contre, là où ça n'a pas fonctionné, c'est convaincre les voisins. Et pourtant, la ferme est rentable. Sauf que ce dont il s'est rendu compte, c'est que c'est pas la valeur de rentabilité, c'est pas ça la question. La valeur en face, c'est la productivité. Et évidemment, pour avoir une production agricole favorable à la vie sauvage, on n'est pas sur de la productivité. Mais c'est le cas, voilà, on retrouve un peu le clivage agriculture paysanne et agriculture industrielle. On ne surproduit pas en agriculture paysanne. Et donc l'idée à partir de ça, ça a été, tant pis, ils ne veulent pas être convaincus, on va les remplacer. Évidemment, c'est pas question de leur mettre un coup de pied aux fesses et de leur dire de partir, ça marche pas. Mais évidemment, vous avez sûrement entendu le renouvellement de la génération agricole qui risque d'être sacrément problématique dans les 5-10 ans. Là, on a vraiment les deux pieds dedans, de nombreux départs à la retraite et comment on les remplace, quoi, à qui vont aller ces terres qui partent à la retraite. Et donc l'idée là, c'est de faire de l'installation paysanne avec cette culture naturaliste. Mais ça se fait pas tout seul. Et là où ça fonctionne, c'est que c'est fait à des échelles territoriales. Donc là, en l'occurrence, à l'origine, c'est le Marais breton. C'est que quelques communes, c'est une entité qui se reconnaît bien. Mais en gros, on pourrait imaginer des sous-bassins versants, des communautés de communes, une vallée. C'est ça, ces entités-là géographiques à laquelle on voit que ça fonctionne pour avoir une implication citoyenne. Et donc là-dessus, on a des outils de dialogue qui se basent notamment sur le système de garantie partagée de Nature et Progrès, et qu'on a un peu retravaillé pour être vraiment sur l'aspect biodiversité sur les fermes. Et donc on implique et les citoyens peuvent prendre en compte les enjeux agricoles et les biodiversités. Donc il y a ces dialogues-là, il y a des visites de fermes, il y a aussi tout un processus de cohésion sociale, des fêtes à la ferme, des marchés, etc. Et donc là, dans le Marais breton, il y a une AMAP c'est des dizaines, des centaines de paniers qui sont fournis par les fermes paysans de nature, enfin du réseau là, sur le Marais breton. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette implication-là, potentiellement, il y a des gens qui ont du pognon, qui savaient pas trop quoi en faire. Donc on peut faire de l'installation, des prêts à taux zéro, etc. Il y a plein de gens qui peuvent s'impliquer de plein de manières différentes. Et ça fait force politique. Au bout d'un moment, ça commence à faire un contrepoids politique. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'origine, en Marais breton, il y avait une réserve naturelle qui faisait 150 hectares et qui allait globalement parce que c'était déjà ça de prix. Et donc maintenant, avec cette implication-là, on arrive à 1500 hectares de fermes paysans de nature et qui valent cette réserve naturelle-là, et donc on l'a décuplée. Ce qui est intéressant avec l'installation paysanne par rapport à la réserve naturelle, c'est qu'une réserve naturelle, il faut au moins 10 ans de dialogue, de négociation, etc., entre le départ et l'arrivée. Mais 10 ans, c'est la version courte. Et l'installation paysanne du projet de celui ou celle qui veut s'installer, il y en a pour aller 2 ans. Et en plus, si vous mettez en place l'implication citoyenne, c'est du bouche à oreille en permanence. Donc les copains du Marais breton, il n'y a à peu près pas une parcelle qui leur échappe. Donc dans le sens où ils savent lesquels vont partir à la retraite à l'avance. Donc il y a un plan, enfin si vous voulez. On peut prévoir ça, quoi. La difficulté, c'est de mettre en place les porteurs de projet, de les avoir sous la main et de faire en sorte qu'on puisse s'installer au bon moment où il y a des terres qui se libèrent, quoi, par la retraite ou autre. Donc il y a ça. Et ensuite, sur l'aspect biodiversité qui fonctionne énormément,
Du coup, on peut aller aussi chercher des fonds qui sont d'habitude réservés à la protection de la nature, et là, de un peu les détourner vers l'agricole ou vers l'installation paysanne. Donc on coche toutes les cases, quoi. On peut cocher toutes les MAEC au maximum et empocher du pognon. C'est des aides de la PAC, ouais. Les MAEC, c'est des aides de la PAC. Mesures agro-environnementales. Et la PAC, la politique agricole commune, c'est l'outil financier de l'agriculture en France, en Europe, pardon. On pourrait quasiment socialiser l'agriculture, sauf que là, c'est mal réparti, comme d'habitude. Et donc, avec cette manne financière-là, qui est facile pour nous, parce qu'on sait travailler comme ça avec la vie sauvage, comme une forme de réserve naturelle, donc c'est pas une difficulté. Et ben, ce pognon-là, on peut se le mettre de côté, et on peut, par exemple, être nous-mêmes des réserves foncières. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à avoir des grosses fermes. Celle de Fred en Marais-Breton et Ludivine, c'est 170 hectares. Alors, c'est pas une très grosse ferme pour le Marais-Breton, mais ça commence à faire quand même. Pour ils sont 3 temps plein, je crois, dessus. Mais après, on peut aussi, dès que plus vous êtes gros, plus vous avez la possibilité, en gros, c'est d'utiliser des outils de l'agro-industrie, quoi. Plus vous êtes gros, plus vous pouvez récupérer des terres. Sauf que nous, on se les garde de côté. Et potentiellement, on permet l'installation après de gens qu'on a formés. Donc, il y a vraiment l'idée de l'implication citoyenne et d'un décloisonnement des enjeux agricoles et environnementaux et naturalistes. Et systématiquement, dans les visites de fermes, dans le dialogue qui est fait sur ces territoires-là, il y a toujours, c'est la volonté d'une représentation tripartite. Il y a toujours du naturaliste, du paysan, de la paysanne et de l'habitant, de l'habitante du territoire. Et donc nos outils d'animation permettent ça. Et donc l'idée derrière ça, c'est quand même que l'alimentation et l'agriculture, ce soit pas quelque chose qui soit réservé aux agriculteurs. C'est quelque chose qui concerne tout le monde, et il faut absolument sortir d'une forme de corporatisme, et tout le monde doit, tout le monde est concerné. Quoi. Et donc je crois qu'on a un temps d'échange pour les questions.
Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je me posais la question un peu de savoir comment aller dans le sens inverse. Et vous avez parlé de remembrement, mais savoir comment aller dans le sens inverse et un peu se demander quels sont justement les freins au démembrement, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà.
A priori, comme ça, je dirais qu'il faut réinstaller en fait le plus possible de paysans et paysannes. L'atelier paysan qui a publié un bouquin « Reprendre la terre aux machines », mais qui fixe l'objectif de réinstaller un million de paysans et paysannes, c'est un grand défi. Mais en fait, après, c'est vrai que en plus le foncier est contrôlé et géré par tout un ensemble d'organismes extrêmement complexes et bureaucratiques, un peu, que ce soit les SAFER, les SDREA départementaux et tout ça. C'est difficile de s'emparer de ces outils-là parce qu'ils sont tellement un peu verrouillés aussi souvent par le syndicat majoritaire de la FNSEA. Déjà essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, et ça permettrait aussi de mieux s'emparer éventuellement des possibilités déjà légales aussi qui existent au sein de ces outils-là, pour essayer d'influencer la répartition du foncier qui est faite pour peut-être essayer de contrecarrer la tendance à l'agrandissement perpétuel.
Dans les victoires qu'on observe, par exemple, nous qui habitons en Bretagne, Léandre et moi, dans les victoires assez importantes qu'il y a eu ces derniers temps, par exemple, contre l'usine Bridor, qui est un projet de grande fabrique de viennoiserie industrielle qui allait se construire sur 20 hectares de terres bocagères en consommant énormément d'eau, on a observé ces dernières années, très récemment, une convergence des luttes qui n'avait jamais eu lieu avant entre des associations historiques comme Alto Marée Verte, ou bien Eau et Rivière de Bretagne, ou bien la Confédération Paysanne, enfin en tout cas pour Eau et Rivière de Bretagne et Alto Marée Verte, qui sont vraiment des associations, on va dire, de type légaliste, qui vont faire des recours en justice, et qui vont converger avec des associations beaucoup plus jeunes, comme Extinction Rebellion ou Deep Resistance, qui vont faire de l'action directe, du blocage, du sabotage. Le sabotage de travaux, c'est vraiment super important parce qu'en fait, on voit que ça permet à des assureurs ou à des banquiers de se désolidariser de travaux qui traînent trop. Donc ça permet de faire que des assureurs se désistent. Suspendent leur crédit, et ça c'est vraiment le... Mais en général, il faut vraiment que ça soit accompagné aussi par des associations légalistes, parce que ça permet d'éviter une sorte de criminalisation du mouvement une qualification de délinquance, si on voit ces luttes se rejoindre. Et puis, on voit aussi... Enfin, je pense que par rapport à ce que dit Léandre sur la complexité de tous ces organismes, nous, en tant que journalistes, c'est important qu'on produise des organigrammes pour comprendre qui tient toutes les institutions, les conseils municipaux. Enfin, ça, c'est un énorme travail. Mais en fait, les conflits d'intérêts qu'il y a, par exemple, entre les dirigeants de l'agro-industrie et toutes les personnes qui tiennent toutes les instances politiques de démocratie locale qui concernent l'eau et l'environnement. Enfin, par exemple, en Bretagne, et j'imagine que c'est le cas ici, il faudrait vraiment faire ce travail. On voit que dans le Finistère, c'est le lobby porcin, c'est clairement les cadres de l'agroalimentaire qui tiennent les communes, les services environnement et eau des communautés de communes, les commissions locales de l'eau, les schémas d'aménagement de l'eau, enfin tout ce qui concerne la biodiversité, c'est incroyable quoi. Et c'est souvent des éleveurs porcins qui ont énormément pollué les rivières, qui prennent ces postes, qui réussissent à prendre ces postes où on décide de questions environnementales très importantes. Donc il faut réinvestir en fait la politique locale aussi et produire des organigrammes pour mettre au jour. C'est très compliqué, mais une fois qu'on l'a fait, c'est énorme ce qu'on peut découvrir. Je conseille vraiment de le faire ici, de voir qui tient les grosses coopératives locales et puis qui est dans la politique locale. Chez Splend, on a publié 4 enquêtes pour l'instant. C'est un média né il y a un an et demi peut-être. On a fait une première enquête sur les émissions d'ammoniac issues des gros élevages intensifs. Émission particulièrement importante en Bretagne et qui pollue en fait l'atmosphère, enfin l'air de tout le nord de la France. On en a fait un sur la méthanisation, un autre sur l'éolien, enfin une autre enquête sur l'éolien, et une dernière sur les implants contraceptifs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette contamination massive gynécologique.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse.
Not again!